Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient, vous commentez l'actualité comme tous les matins. Tout à l'heure, nous lancerons le débat sur la crise que traverse la majorité en République démocratique du Congo. Nous sommes théoriquement à un an de l'élection présidentielle et de plus en plus de voix accusent le pouvoir de mettre en place une stratégie pour reporter ce scrutin au-delà de 2016, au-delà donc du délai constitutionnel, afin de permettre à Joseph Kabila de se maintenir en poste. Récemment, sept partis ont quitté la majorité présidentielle et la semaine dernière, coup de théâtre, Moïse Katumbi, le puissant gouverneur du Katanga, a démissionné de ses fonctions et il a claqué la porte du parti présidentiel. Toutes ces personnalités dénoncent les manœuvres mises en place pour ne pas respecter la Constitution. Alors, que pensez-vous de ces accusations? Quelles peuvent être les conséquences politiques de ces nombreuses démissions? En tout cas, dans l'entourage du président de la République, on dénonce un procès d'intention. On va en parler ensemble dans une trentaine de minutes. 33 9 693 693 70, 09 693 693 70. Si vous nous appelez de France, vous êtes plusieurs centaines à réagir sur la page Facebook de l'émission. Continuez, le débat se déroule sur l'antenne, évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, comme tous les matins, c'est un rendez-vous que vous connaissez, c'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI. Vous nous appelez pour nous poser toutes vos questions afin de mieux comprendre l'actualité. Olivier Roger est déjà installé à mes côtés. Bonjour Olivier.
Bonjour Juan, bonjour
vous,
à tous.
Vous rentrez du Burkina Faso, vous étiez l'un des envoyés spéciaux d'RFI. Adel Kerim a justement des questions à nous poser sur la situation au Burkina Faso. Bonjour Adel Kerim.
Bonjour Juan.
Bienvenue, vous nous appelez... Merci pour eux. Vous nous appelez de Moundou, à 250 km du Tchad, de Djamena, la capitale tchadienne. Quelles sont vos questions, Abdelkerim?
Oui, suite à la médiation faite par le président de la CEDEAO, le régiment de sécurité présidentielle RSP a été désarmé. À cet été, j'aimerais savoir quel est l'essor réservé à ces soldats.
Alors, le RSP, ce régiment qui était donc à l'origine du coup d'état raté du 17 septembre, a non seulement été dissous, mais il a été désarmé de force. Olivier Roger, que vont devenir les 1200, 1300 militaires de cette unité d'élite?
Alors, avant de répondre à cette question, rappelons que le RSP a été dissous par le Conseil des ministres qui s'est réuni le 25 septembre dernier et qui a pris cette principale décision en réponse à cette tentative de coup d'état avorté. Le RSP était, pourrait-on dire, le bras armé de Gilbert Diendéré pour abattre le pouvoir de transition. Le pouvoir de transition qui a réussi à empêcher ce coup d'État, eh bien, s'est en quelque sorte vengé en prononçant la dissolution par décret du régiment de sécurité présidentielle. C'est donc la suite logique de ce coup d'État. Les effectifs, effectivement, ils sont de 1300 hommes. Ils ont d'ores et déjà été répartis entre plusieurs unités de l'armée de terre principalement. D'après ce que disait le porte-parole de l'armée en fin de semaine dernière, 8 à 900 de ces 1300 éléments ont déjà rejoint leurs nouvelles affectations. Un point doit être fait d'ailleurs aujourd'hui par l'état-major sur ces affectations et sur la répartition, la ventilation de ces soldats qui étaient considérés comme des soldats d'élite dans leurs nouvelles unités.
Il y a quand même eu des résistances au sein des membres du RSP.
Oui, d'abord parce que les militaires du RSP se considéraient et étaient considérés un peu comme l'élite de l'armée du Burkina Faso. C'était un peu les enfants gâtés du président Blaise Compaoré qui avait créé ce corps en 1987 et il y avait d'ailleurs, on a pu s'en apercevoir lorsque les journalistes ont visité le camp du RSP après la chute du RSP, il y avait toujours un portrait de Blaise Compaoré accroché aux messes des officiers dans leur caserne. Perte de privilèges, perte de statut, tout ça fait grincer des dents parmi ces 1300 hommes. Ils n'étaient pas ravis a priori d'apprendre qu'ils allaient devoir rejoindre de nouvelles affectations. Ceci dit, l'armée burkinabé est en train de développer d'autres unités d'élite, notamment de garde-frontières, notamment d'antiterrorisme, et il est fort à parier que l'état-major saura parfaitement utiliser ces hommes dans leurs nouvelles fonctions, d'autant que la plupart ont reçu des formations assez pointues et sont considérés comme d'excellents professionnels.
Voilà, donc ces hommes seront donc réintroduits dans d'autres unités de l'armée du Burkina Faso. La question que tout le monde se pose, c'est évidemment l'avenir des chefs, de ceux qui ont clairement dirigé dirigé ce coup d'État, à commencer par général Diendéré.
La justice l'a dit, les hommes qui n'ont rien à se reprocher seront répartis dans d'autres unités. En revanche, les chefs qui ont organisé, planifié et mené cette tentative de coup d'État, ceux-là devront répondre de leurs actes devant la justice. Il y a déjà eu ouverture d'une enquête. L'enquête a d'ailleurs été transférée ce week-end au procureur militaire burkinabé, qui est le seul à pouvoir ouvrir et mener une enquête contre d'autres militaires, et ces militaires seront jugés devant un tribunal militaire. On le sait, Gilbert Diendéré finalement s'est rendu à la justice. Il est actuellement détenu dans un camp de gendarmerie. D'autres responsables du RSP, comme le colonel-major Bourema Kéré, qui était le chef d'état-major particulier du président et qui a joué un rôle dans ce putsch, a lui aussi été arrêté. De même que Abdoulaye Dao, qui est capitaine et qui était le chef de la sécurité rapprochée du président. Ce fut d'ailleurs l'un des hommes clés des négociations engagées durant la seconde semaine où les gens du RSP tentaient de négocier avec l'état-major qui avait envoyé des effectifs à Ouagadougou pour contrer le coup d'État. Donc ces gens-là étaient dans les négociations et manifestement faisaient partie de ceux qui avaient mené cette tentative de coup d'État. On peut citer aussi Houssène Zoumbri, un commandant de compagnie au RSP, et Mamadou Bamba, qui était le médecin militaire, qui est colonel, lieutenant-colonel, qui avait annoncé à la télévision la création du CND et le coup d'État.
C'est lui qui avait lu les communiqués du putschiste.
Voilà. Ces gens-là sont actuellement détenus, ils sont entendus par les gendarmes pour les besoins de l'enquête. Citons aussi Abdulaziz Korogo, qui est en fait le véritable patron du RSP durant toutes ces journées. Il est chef de corps par intérim et c'est l'homme qui avait signé notamment chez le Moronaba, donc l'autorité morale des Mossi, le 22 septembre dernier, un accord avec les loyalistes, accord qui avait permis d'éviter l'affrontement entre le RSP et l'armée régulière. Il est actuellement entendu, il n'est pas encore, à ma connaissance, détenu.
D'accord, ce qui fait à peu près une petite dizaine d'officiers arrêtés pour l'instant.
Voilà. Ouais. Mais l'enquête n'est pas terminée, peut-être y aura-t-il d'autres responsables incriminés dans les jours qui viennent.
Merci Olivier Roger d'être venu répondre à Abdelkerim qui nous appelait du Tchad. 33 9 693 693 70. Je vais me faire le porte-parole de Richard. On l'entend très très mal, trop mal me dit-on pour passer à l'antenne. Richard qui a entendu sur RFI que l'Égypte allait acheter les deux Mistral refusés à la Russie. En quoi cet achat est-il utile à l'Égypte, nous demande-t-il, et il veut savoir également si le pays a besoin de renforcer son armée. Bonjour Alexandre Bouchanti.
Oui, bonjour.
Vous êtes le correspondant des RFI au Caire. Alors ces deux Mistral, rappelons-le, devaient être livrés à la Russie. Finalement, la France a suspendu cette livraison en raison de la guerre menée par Moscou dans l'est de l'Ukraine. Eh bien, ces deux Mistral seront finalement vendus à l'Égypte. Alors on rappelle tout de même, Alexandre, que le Mistral, c'est tout de même un navire ultra sophistiqué, capable de transporter des troupes, des hélicoptères sur un terrain d'opération extérieur. Comment l'Égypte va-t-elle utiliser ces deux navires ?
Alors, il faut d'abord préciser quand même que le président Abdel Fattah el-Sissi était maréchal avant d'être élu il y a un an et demi. Depuis lors, le Caire a commencé à diversifier et à renforcer son armée. Les Américains, aujourd'hui, ne détiennent plus le monopole de l'armement de l'Égypte, comme c'était le cas sous Moubarak. En fait, c'est la France qui arrive en tête avec l'achat par l'Égypte de 4 corvettes, d'une frégate, 24 avions de combat Rafale et maintenant les deux Mistral. Des contrats de plus de 7 milliards d'euros, soit presque deux fois le budget défense égyptien. Et donc la question se pose immédiatement, mais qui va payer ça? Et la réponse est indirectement l'Arabie Saoudite et les Émirats.
Oui, mais Alexandre Bouchanti, pourquoi l'Égypte veut-elle acquérir des Mistral?
Alors d'abord parce que, comme pour toute armée, elle veut être la plus forte en quelque sorte, et cela va faire la marine égyptienne une des plus puissantes de Méditerranée et d'Afrique de l'Est. Alors les Mistral permettent aussi à l'Égypte d'avoir le bras très long même, puisque ces navires de 20 000 tonnes et de 200 mètres de long sont de vrais héliports qui permettent à l'Égypte de projeter ses forces à des milliers de kilomètres. Il ne faut pas oublier que le Mistral non seulement a des hélicoptères, mais des chars d'assaut, des blindés, 500 hommes, des péniches de débarquement. Alors il y a deux théâtres d'opération possibles. Il y a la Libye où la montée des extrémistes du groupe État islamique est perçue comme une menace par l'Égypte. Rappelons que les extrémistes ont déjà égorgé 21 Égyptiens, ce qui a entraîné des raids de représailles égyptiens, mais qui ont été limités par la distance. Et puis, il y a un autre théâtre d'opération possible, le détroit de Bab el-Mandeb, qui, à partir du Yémen, contrôle l'entrée sud de la mer Rouge et donc peut menacer le canal de Suez, qui est vital pour l'économie égyptienne.
Et puis, il y a aussi la force commune d'intervention rapide qui a été créée, décidée par la Ligue arabe.
Oui, tout à fait. Une force qui comprend principalement l'armée égyptienne, saoudienne et émirienne. Et donc les deux Mistral vont devenir en quelque sorte les navires amiraux de cette force. Alors une force qui pourrait voler en quelque sorte au secours des pays du Golfe en cas de besoin. Alors des pays du Golfe qui, rappelons-le, sont préoccupés par la montée en puissance de l'Iran après l'accord que Téhéran a signé sur le nucléaire avec les États-Unis.
Oui, et ces deux Mistral seront livrés au mois de mars. D'ici là, 400 marins égyptiens seront formés en France, à Saint-Nazaire. Merci beaucoup Alexandre Bouchanti. Bonne journée au Caire. Et j'espère que Richard avait l'oreille collée au transistor pour écouter toutes vos explications. Aroy nous appelle d'Indianapolis, aux États-Unis. Bonjour Aroy.
Bonjour Juan. Je salue tous les auditeurs de RFI.
Vous avez-vous des questions concernant le référendum constitutionnel au Congo-Brazzaville?
Bien sûr, ma question est relative à l'annonce d'un référendum en vue d'une éventuelle modification de la constitution congolaise par le président Sassou et son parti. Ma question est celle-ci. Quelles sont les raisons fondamentales officielles qu'évoquent le président Sassou et son parti pour justifier cette modification?
Bonjour Sonia Rollet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique d'RFI. On sait que ce projet est loin de faire l'unanimité. L'opposition congolaise à Brazzaville est vent debout contre ce projet de référendum, puisqu'elle a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une stratégie pour permettre au président de briguer un troisième mandat l'année prochaine. Officiellement, Sonia, il s'agit d'un référendum pour changer la gouvernance. Mais encore.
Mais déjà, c'est un référendum pour changer de constitution. C'est-à-dire que là, clairement, ce sera pas une réforme où on a décidé de changer un article ou un autre. Nouvelle constitution, nouvelle république, on va dire, au Congo. Et les principaux points, disons, il y a la limitation de la durée du mandat. Donc, on passerait de 7 à 5 ans. Il y a l'abaissement de l'âge pour devenir président. Donc, 30 ans.
Au lieu de 40 aujourd'hui.
Au lieu de 40 aujourd'hui. Un statut pour l'opposition qui n'en a pas. Il y a également des pouvoirs supplémentaires pour le Parlement. On évoque un régime semi-présidentiel, donc où les pouvoirs du président seraient limités. Ça a été présenté comme ça. C'est des conclusions qui sont sorties d'un dialogue qui s'est terminé à la mi-juillet à Dolézy, donc Dolézy en pleine forêt, ce qui avait d'ailleurs été critiqué par l'opposition, qui estimait que le gouvernement cherchait ainsi à rendre prisonniers les participants pour arriver à une certaine conclusion. Mais ce dialogue a eu lieu, donc l'opposition n'y a pas participé. L'opposition dite radicale par le gouvernement, c'est-à-dire l'opposition qui refuse tout changement de constitution parce qu'elle estime que, bien que c'est peut-être opportuniste, puisque à l'heure actuelle, le président Denis Sassou Nguesso ne peut pas se représenter à la présidentielle de l'an prochain, puisqu'il a dépassé la limite d'âge, mais par le haut, oui. C'est-à-dire qu'il a 70 ans et la limite d'âge c'est 72 ans et la limite d'âge c'est 70 ans, et qu'il a fait ses deux mandats. Alors il y a eu des déclarations juste la semaine dernière. Juste après la meeting de l'opposition, donc qui s'est passé à Brazzaville, c'était le 27. Le pouvoir a répondu le 29 en donnant une conférence de presse justement à Dolizy. Et l'un des ministres, le ministre aux Affaires foncières, avait affirmé qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Que, en tout cas, ce que estime l'opposition n'est pas vrai. Il disait non, pas troisième mandat. Ce qu'explique un opposant congolais, c'est que, évidemment, il n'y aura pas de troisième mandat parce que s'il y a changement de constitution, tous les compteurs sont remis à zéro et qu'à partir de ce moment-là, on revient au premier mandat du président de la République qui serait donc cette fois de 5 ans. Mais c'est vraiment ce à quoi, pour l'instant, l'opposition essaie de faire barrage.
Ouais, et le débat ne fait que commencer. On aura l'occasion, évidemment, d'y revenir sur notre antenne avec nos auditeurs. Vous avez été très nombreux la semaine dernière à commenter cette annonce du président Denis Sassou Nguesso, annonce du référendum constitutionnel. Merci beaucoup, Sonia Rollet. Aroy, bonne fin de nuit à Indianapolis, aux États-Unis. Alousseni, bonjour.
Oui, bonjour, Juan, comment ça va?
Ça va très bien, merci de nous appeler. Vous êtes en région parisienne, à Bagnolet, très exactement. Voilà, vous souhaitez revenir, vous, sur les mesures prises récemment par l'Union européenne pour répartir les réfugiés arrivés sur le territoire européen.
Oui, effectivement, c'est ça.
On vous écoute.
On voit récemment, les ministres de l'Intérieur des pays européens ont voté la répartition des quotas sur 2 ans. En ce qui concerne la répartition des réfugiés, du coup, j'avais quelques questions à poser là-dessus.
Oui.
La première, la suivante. Ce sont qu'on ne parle plus de quotas. Comment va se faire la répartition sur le territoire européen?
Ah, ça c'est une bonne question. C'est vrai que le caractère obligatoire a disparu de l'accord conclu récemment par l'Union européenne. François Gemen est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci.
Alors,
Pardon. Intéressant, je voulais quand même vous présenter, François Gemen, si vous le permettez, puisque vous êtes chercheur en sciences politiques à Sciences Po et à l'Université de Versailles. Vous êtes un spécialiste des flux migratoires, notamment en Europe. Effectivement, comment va se faire la répartition des réfugiés si finalement on ne parle plus de quotas et il n'y a plus d'obligation pour les pays membres?
Je dirais que c'est toute l'ambiguïté de l'accord qui a été négocié. En réalité, l'idée des quotas, c'est de mettre en place les fondations d'un système qui aurait été permanent et qui aurait été durable, et les vagues de réfugiés. Ici, on est dans une solution temporaire qui va concerner uniquement personnes, et donc vraisemblablement, dès lors qu'il y aura un nouvel afflux de réfugiés, une nouvelle crise, si on se reposera, il va falloir à nouveau négocier, tergiverser, et donc ce plan qui a été négocié, c'est un perdu de mettre en place pour la première fois un système pérenne de répartition des réfugiés dans l'Union européenne. Ici, c'est vraiment un emplâtre sur une jambe de bois qui va essayer de trouver une sorte de solution malhabile et temporaire, problème qui va poser à nouveau à l'avenir.
Ouais, alors, il y a des micro-coupures, François Gemen. Je signale à nos auditeurs que vous êtes très loin, à l'étranger, et difficile pour vous de vous déplacer, de vous mettre à l'extérieur. On a compris en tout cas l'essentiel. Faut quand même rappeler, le chiffre n'a pas été coupé au moment que vous parliez, c'est que effectivement, on parle là pour l'instant de 120 000 réfugiés, 120 000 personnes qui sont concernées par ce plan adopté par l'Union européenne. Alouceni, vous avez d'autres questions?
Oui. La seconde question est la suivante. Dans quelle mesure les plans votés par les ministres de l'Intérieur des pays européens est-il contraignant pour les pays qui s'y ont opposés?
Alors, à partir du moment où il n'y a pas de quotas, où tout se fait sur la base volontaire, François Gemen, comment Bruxelles va-t-elle contraindre les pays réfractaires, et on pense notamment à la Hongrie, à la Slovaquie, à la République tchèque, pour accueillir des réfugiés?
C'est une question très délicate, parce que là, la procédure qui a été choisie, c'est celle du vote à la majorité qualifiée, c'est-à-dire imposer une décision à la majorité. Mais le problème, c'est que va-t-il se passer des réfugiés qui vont être alloués à des pays qui n'en veulent pas? Quel va être l'accueil qui va leur être réservé? Et donc c'est par le vote, par cette majorité qualifiée qu'on impose aux pays européens qui ne veulent pas de réfugiés d'en accueillir quand même, mais je n'ose pas trop imaginer la situation dans laquelle ces réfugiés vont se trouver et l'accueil qui va leur être réservé. C'est donc, à mon avis, une procédure qui pose véritablement question, et peut-être que le système de décision européen a atteint une limite là-bas.
Ouais. François Hollande a été clair, il a tout de même prévenu que les pays qui ne respecteraient pas l'accord se verraient couper des aides. C'est pensable ou pas, selon vous?
C'est certainement imaginable, d'autant plus que les pays qui ne veulent pas accueillir les réfugiés sont des pays qui ont très largement bénéficié, et à juste titre sans doute, mais qui ont très largement bénéficié des aides européennes, et notamment des plans régionaux et des plans structurels. Alors on peut imaginer effectivement de réduire, voire de couper ces aides, mais ça provoquerait une crise politique très très grave dans l'Union européenne, et ça ajouterait sans doute un élément de crise à la crise.
Merci d'avoir été avec nous, François Gemen, quelques minutes. Alouceni, on a répondu à vos questions?
La dernière, vous avez...
Ah, vous avez aussi... D'accord. Bah écoutez, tant mieux si on a répondu à toutes vos questions. Merci de votre fidélité. Dans une minute maintenant, le point complet sur l'actualité, ce sera la dernière édition d'Afrique Matin, et on reviendra tout de suite après pour notre débat du jour consacré à cette crise que traverse en ce moment même la majorité en République démocratique du Congo. Nous sommes à 12, 13, 14 mois de l'élection présidentielle, mais beaucoup sur place pensent que le pouvoir est en train de mettre une stratégie pour essayer de reporter ce scrutin présidentiel au-delà du délai constitutionnel. On va en parler tous ensemble. Vous continuez évidemment à nous appeler, à nous rejoindre au standard ici à Paris, 33 9 693 693 70. Je vous rappelle le principe, hein, vous nous appelez, nous notons votre prénom, votre numéro de téléphone, et l'équipe vous rappelle dans les minutes qui suivent.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.